Raccroche, ça commence.
Mais Mimi, c'est ta mère. Elle veut savoir c'est quelle fréquence.
Quand l'automne arrive, il est toujours un peu plus dur de refermer la porte derrière soi le matin. De sortir, d'aller à la rencontre de tout ce qui nous attend, de trouver cet élan-là. Nous aimons nos maisons, pas seulement pour y dormir, mais pour ce qu'elles gardent. C'est comme un coffre, une valise qui nous raconte, remplie de choses qu'on n'a pas su jeter, qu'on n'a pas voulu quitter. Des odeurs, des voix, des objets, ces gestes réguliers qu'on ne calcule même plus. Je me dis souvent qu'on finit par leur ressembler à nos maisons. Elles se tassent un peu, grincent aux mêmes endroits que nous, gardent la lumière là où on aimait s'asseoir. Et puis un jour, ce bonheur du familier, celui qu'on a choisi, devient parfois une montagne. Les objets pèsent plus lourd au poignet et les questions aussi. Faut-il rester, partir, recommencer ailleurs? Et surtout, comment continuer à se sentir chez soi quand tout y devient moins simple? Aujourd'hui, on parle de ça, de la manière dont nos lieux de vie influencent ce qu'on ressent, ce qu'on devient, ce qu'on garde de nous-mêmes. Avec Joanne Kofling de l'antenne Petit-Fils de Laval, on parlera du maintien à domicile, de ce lien précieux entre le chez-soi, la mémoire et le fait de rester debout, entouré dans sa propre maison. Et puis en seconde partie d'émission avec Romain Lemaire du Geste Mayenne, on parlera d'habitat inclusif, de ces lieux à taille humaine entre le chez-soi et le vivre ensemble, où chacun a son espace, son rythme, mais où personne n'est vraiment seul. Des lieux pensés pour recréer du lien, de la présence, une vie partagée sans qu'aucune ne prenne le pas sur l'autre. Parce qu'habiter, pour nous aujourd'hui, c'est continuer à trouver une place dans le monde. Et peut-être que la plus belle façon de le faire, c'est d'écouter ce qui accompagne, ce qui invente de nouvelles manières de vivre ensemble, ce qui veille simplement. S'il y a bien quelqu'un qui veille et nous parle d'habiter le monde, c'est Donatien, notre chroniqueur, que l'on retrouve à la fin de cette émission. Est-ce que l'auditeur de l'autre radio est là? Je ne vous entends pas, mais je vous imagine. Peut-être que vous n'aviez pas prévu d'écouter la radio là maintenant, peut-être que vous êtes tombé dessus par hasard et que vous restez un peu. Alors oui, restez, ça en vaut la peine. C'est l'agité du local qui commence, je suis Margot et je vous propose de passer maintenant à l'entretien du jour.
Vous écoutez l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio. Et si rester chez soi, entouré et accompagné, était le premier soin de santé mentale pour nos aînés, vieillir à domicile, ce n'est pas seulement une question de confort, c'est aussi une manière de préserver l'équilibre, la dignité et le lien social. Avec nous aujourd'hui, Joanne Kofling, vous êtes directrice de Petit-Fils à Laval pour parler de ce rôle essentiel de l'aide à domicile dans la vie de nos aînés. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement la manière dont vous accompagnez les personnes âgées en Mayenne?
Tout à fait. D'abord, merci de me donner cette opportunité d'échanger sur ce beau sujet. Donc le rôle de Petit-Fils, qui est donc un réseau national, est en fait de maintenir les personnes en perte d'autonomie à leur domicile. Donc derrière la perte d'autonomie, on va rencontrer soit des personnes âgées, soit des personnes en situation de handicap. Et notre enjeu, c'est exactement le thème de cette interview, faire en sorte qu'elles restent chez elles le plus longtemps possible.
Quand on parle de santé mentale des aînés, il est aussi question du regard que la société porte sur le grand âge. Est-ce que vous sentez que ce regard évolue et en quoi ça influence aussi votre travail peut-être?
Alors très honnêtement, est-ce que ce regard évolue, c'est pas mon sentiment personnel en tout cas, mais qui n'engage que moi. L'enjeu qu'on a autour de ça, nous, c'est de valoriser évidemment les personnes qu'on accompagne, qui sont d'une immense richesse, que ce soit pour nous professionnels du médico-social ou plus particulièrement les auxiliaires de vie qui accompagnent ces personnes au quotidien et qui ont très souvent fait ce choix précisément parce qu'elles y trouvent une richesse importante.
Dans ce que vous revendiquez, vous délivrez des prestations de haute qualité comme pour nos propres grands-parents. C'est les termes que vous utilisez concrètement. Qu'est-ce que ça signifie dans la pratique et comment ça se traduit dans l'accompagnement quotidien ?
Effectivement, le choix de cette marque Petit-Fils, elle n'est pas le fruit du hasard, puisqu'en fait, Petit-Fils a été créé il y a une vingtaine d'années par deux petits-fils qui avaient un souhait, ces deux petits-fils, Pierre et Damien, que ce soit toujours les mêmes personnes qui s'occupent de leurs grands-parents. Et donc, pour répondre à votre question, l'idée de s'occuper des personnes âgées comme s'il s'agissait de ses propres grands-parents, c'est d'une part de tisser une relation de confiance avec un lien durable, d'avoir toujours là ou les mêmes personnes. Et puis ensuite, c'est prendre le temps de s'adapter à leurs besoins, notamment en fonction de la manière dont elles vivent le domicile, par opposition à ce qui sera moins facile en structure. Et prendre le temps, ça induit d'être à l'écoute, de s'adapter et de considérer que chaque cas est particulier, d'où cette idée chez Petit-Fils de faire de l'accompagnement sur mesure.
On dit souvent que vieillir chez soi, c'est peut-être le souhait de la grande majorité des seniors. Pourquoi ce choix est-il si important pour leur bien-être et leur équilibre psychique? Qu'est-ce que ça change de rester chez soi, même quand on est justement en perte d'autonomie?
Alors effectivement, comme vous le dites très justement, c'est un souhait quasi généralisé, puisque statistiquement, hein, que ce soit la littérature qu'on trouve au plan national ou nous, des statistiques qu'on a pu faire au sein du réseau, 85 à 90% minimum des personnes âgées émettent le vœu cher de rester chez elles. Donc ça fait appel à des notions très importantes. Il y a une immense symbolique, hein, derrière le domicile. Il y a d'abord cette notion d'ancrage, puisque le domicile, évidemment, va représenter tout le parcours de vie, que ce soit les souvenirs, que ce soit les objets auxquels on va être attaché, l'histoire familiale. Donc il y a une dimension d'ancrage très important, un volet affectif aussi qui parfois va aussi aller jusqu'à faire écho à l'histoire de famille, le lien aux parents, l'enjeu d'un statut social qui est d'avoir souvent élevé ses propres enfants au domicile et donc d'être encore maître de cet espace finalement d'intimité où on décide de tout, de comment on fait, à quel moment on fait... voilà, un cadre sécurisant et maîtrisé. Donc derrière ça, c'est l'enjeu de l'autonomie, évidemment, du maintien de l'intégrité de la personne et de garder la main, en quelque sorte, sur le parcours de sa vie. Donc c'est fondamental au plan psychique.
Justement, en introduction de cet entretien, je disais en quoi le maintien à domicile peut être considéré comme un premier soin de santé mentale pour nos aînés. Est-ce que c'est parmi les premières choses auxquelles on devrait penser, même anticiper peut-être avant même la perte d'autonomie?
C'est effectivement, ça peut être perçu comme étant un premier soin, puisque pour moi, dans la majorité des cas, maintenir au domicile, c'est d'abord respecter la personne dans son choix de vie. Le domicile, ça représente l'identité de la personne, donc c'est la respecter en tant que telle. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir en dehors du domicile, parce que malheureusement, parfois, il y a des contraintes qui font qu'on ne peut pas faire autrement. Mais en tout cas, si on fait ce choix de quitter le domicile, ça doit vraiment être accompagné de la meilleure manière. Et pour autant, maintenir au domicile ne doit pas être un acte à tout prix, c'est-à-dire que ça doit être accompagné. Accompagné dans le fait de ne jamais mettre la personne en difficulté, parce qu'une personne en perte d'autonomie peut être mise devant une certaine forme d'échec de gestion de la vie, des actes de la vie quotidienne. Donc c'est trouver un accompagnement qui va accompagner ces gestes-là sans jamais mettre à mal la personne, c'est-à-dire être plutôt là, et là je fais référence au métier d'auxiliaire de vie qui est notre premier métier, d'accompagner la prolongation du geste en fait, et de faire en sorte que cette autonomie, même si elle est dégradée, se maintienne et dure le plus longtemps possible. Ce n'est jamais faire à la place, mais accompagner, être à côté de la personne. Cette notion-là, elle est fondamentale aussi dans le respect de la personne, finalement.
Quand je pense aussi santé mentale, et notamment dans l'accompagnement également que vous proposez, je pense aussi préservation du lien social. L'auxiliaire de vie peut aussi être là, parce qu'on parle de maintien à domicile, mais ce qui est essentiel aussi parmi nos besoins, nos premiers besoins, c'est de garder un lien social, des activités, les auxiliaires de vie peuvent le permettre.
Tout à fait. Eh bien, précisément, quand j'évoque des notions de contraintes, enfin en tout cas de précautions prises au maintien à domicile, la notion de lien social, elle est fondamentale, parce qu'il ne faut pas non plus mettre les personnes en situation d'isolement, ce qui peut parfois être le cas. Et d'un autre côté, quand elles sont bien entourées, préserver les aidants, parce qu'on sait que souvent les aidants sont en quelque sorte les murs porteurs, qu'ils prennent beaucoup sur eux et attendent souvent des situations extrêmes pour commencer à émettre un besoin d'aide. Donc, ces précautions-là, elles sont importantes à prendre. Elles ne sont pas toujours possibles, malheureusement.
J'allais y venir à la question des aidants familiaux. C'est un rôle crucial qui est de plus en plus reconnu, heureusement, mais d'où l'importance aussi d'anticiper des fois la perte d'autonomie, puisque les aidants rencontrent au bout d'un moment beaucoup d'épuisement, de fatigue, des fois de culpabilité aussi dans la difficulté à accompagner au mieux leurs proches. Se dire que finalement, il y a le rôle de la famille, mais il y a aussi le rôle potentiellement d'une auxiliaire de vie qui va permettre de garder des liens familiaux tels qu'ils doivent exister et pas forcément aller au-delà.
Tout à fait. Il y a un élément important dans cet enjeu de maintien à domicile, c'est la notion, vous l'avez évoqué, d'anticipation. Perdre l'autonomie, c'est une forme de deuil, même si la vie n'est faite que de deuil finalement, parce qu'au fil de l'eau, on peut perdre un départ d'enfant qui quitte le foyer. Enfin, la vie n'est faite que de deuil consécutif, mais celui-là, il est particulièrement difficile. Et du coup, la clé pour réussir cet obstacle auquel on va tous être confrontés à un moment ou un autre, c'est de l'anticiper. Et l'anticiper, ça veut dire de ne pas attendre le dernier moment et parfois même d'être face au déni pour affronter l'obstacle, mais bien au contraire, de l'anticiper tant qu'on est justement autonome et en capacité de rester maître de ses décisions et de sa vie. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il faut commencer à échanger avec ses proches, évoquer de manière progressive, en douceur, la manière dont on se projette, comment on va l'aborder, mais le faire tant qu'on a encore toutes ses capacités pour le faire et qu'on puisse à un moment donné être décideur des étapes clés finalement de cette évolution. Et on garde la notion d'intégrité encore une fois, tout à fait, tout à fait. Et vous l'avez dit, les proches, quand on accompagne chez Petit-Fils, on accompagne en premier lieu nos bénéficiaires, mais finalement tout autant, voire même parfois davantage selon certaines situations, les proches aidants qui, il est vrai, ont beaucoup de culpabilité. Alors c'est lié parfois à un éloignement, parfois aussi, ça peut aussi être une dimension culturelle, religieuse, qui fait qu'on se sent cette obligation, quoi qu'il arrive, quitte à y laisser parfois une partie de soi-même, cette obligation de donner au même titre qu'on a reçu. Mais voilà, c'est aussi dans notre rôle de savoir accompagner ses aidants pour qu'ils dosent aussi et qu'ils se protègent pour pouvoir accompagner le plus longtemps possible.
Avec le vieillissement de la population, les besoins vont croître. Selon vous, comment mieux préparer l'avenir pour que le maintien à domicile reste une option viable et bénéfique pour la santé globale des aînés ? C'est vrai que c'est quelque chose, finalement, est-ce que ces propositions ne vont pas devoir se développer encore davantage à plus grande échelle ? Les structures aujourd'hui sont de toute façon débordées également.
Oui, en effet, on est sur une activité où il y a énormément de demandes et les statistiques démontrent que ça ne va pas aller en s'arrangeant. La clé de nos métiers, c'est de pouvoir accompagner au mieux. Alors, ça induit d'avoir des ressources nécessaires, donc de les former, qu'elles soient suffisamment expérimentées, parce que le métier d'auxiliaire de vie, c'est un métier complexe, tant au plan fonctionnel que psychologique. C'est pas toujours l'image que ça envoie chez beaucoup de personnes, et c'est bien dommage. Et d'où cette idée chez Petit-Fils de vraiment prendre soin de ceux qui prennent soin. Parce que pour nous, c'est la clé. J'évoquais tout à l'heure l'idée de prendre le temps d'accompagner. Mais pour prendre le temps, il faut que l'auxiliaire de vie elle soit elle-même dans des conditions d'exercice où elle est sereine et elle va pouvoir être dans une écoute qui soit la plus bénéfique possible. Donc pour répondre à votre question, l'enjeu, c'est non seulement d'avoir le nombre de professionnels suffisants, mais surtout des professionnels qui soient attirés par ces métiers-là et épanouis dans ce qu'ils font. Et on est dans une société où malheureusement la notion de rapidité et parfois même de travail, une certaine forme de travail à la chaîne vont à l'encontre de ces principes de bien-être et d'attractivité du métier.
Dans les métiers de l'humain, on est de plus en plus dans une rentabilité du temps et rentabilité de l'acte. On voit ça par exemple dans les hôpitaux, remettre l'humain au centre, c'est peut-être l'enjeu aujourd'hui, ce qui va faire la différence.
Voilà, et puis remettre la personne au centre finalement du projet Et on ne peut être à l'écoute que si on a le temps pour le faire, hein, puisque chaque personne est individuelle. C'est ce qui fait la richesse de nos métiers, hein, parce que finalement, toutes les situations peuvent se ressembler. Une sortie d'hospitalisation est une sortie d'hospitalisation. Pour autant, elle aura toujours un écho différent selon l'histoire de la personne et la manière dont elle appréhende la situation, la manière dont elle est entourée. Donc c'est cette richesse-là qu'on vient chercher dans ces métiers-là, mais c'est ce qui en fait aussi la difficulté, d'où l'intérêt d'avoir des professionnels qualifiés pour accompagner cet enjeu.
Si l'auditeur qui nous écoute est interpellé par notre échange, où est-ce qu'on vous contacte ?
Alors le réseau Petit-Fils, qui représente 300 agences en France, il est simple, petitfils.com, hein, donc petit au pluriel, tiré du 6, fils.com, hein, et vous y retrouverez notamment l'agence de Laval qui intervient sur l'ensemble du département.
Merci beaucoup, Joanne.
C'est moi qui vous remercie.
L'autre radio, eh ben c'est la vie qui passe en direct.
Dans quelques instants, votre émission quotidienne continue sur l'autre radio. Avant ça, on va faire une pause avec Suzanne. On écoute plus que moi.
J'ai connu l'échec, la débauche et la dèche. J'ai connu les remarques que l'on fait sur mon sexe. J'ai connu des types bien et des types qui agressent. Je connais pas l'injustice d'un délit de faciès. J'ai appris des leçons de vie dans mes erreurs de jeunesse. Et j'en ferai encore, j'ai pas l'âge de la sagesse. Je cours après le bonheur, je prends de la vitesse. Vers la paix intérieure, c'est ça mon Everest. Anxiété m'appelle, j'ai peur de l'avenir. Peur des discours de haine faits avec le sourire. De la montée des extrêmes et celle des océans. De la nature humaine qui tue le vivant. Je sais pas si je veux des gosses, je sais pas si je serai une bonne mère. D'abord faudrait que je sache quel est mon rôle sur la terre. La mienne avait un boss qu'on appelle patriarcat. Elle a élevé 4 gosses, ramené un salaire chaque mois. J'aime parler féminisme avec une meute de mal alpha. Combien de filles vont courir et ne reviendront pas. Mes copines n'écoutent plus les rappeurs misogynes. Elles me disent à chaque fois, fais un feat avec Youssoupha.
Oh, à la vie qu'on mène. Au grand rêve que l'on traîne et qui nous perdent gentiment, gentiment. Ah, à la vie qu'on mène. Et puis même si c'est la merde, il faut que je m'aime. Sinon qui le fera plus que moi. Plus que moi. Qui le fera plus que moi. Plus que moi.
J'ai connu le minimum, maman n'avait pas le bras long. J'ai connu les hommes, j'ai pas connu mon daron. Mon enfance radieuse, belle comme un piano voix. J'ai connu des adieux qui à la base n'étaient qu'un au revoir. J'ai connu les maîtres de cérémonie dans les HLM. On était des alcooliques anonymes avant d'être célèbres. J'ai connu ceux qui m'ont aimé tant que j'avais des problèmes. Et j'ai connu ceux qui m'ont insulté pour que je progresse. Trop promesses. Y'avait pas beaucoup de saveurs, y'avait pas beaucoup de faveurs. Génération Sangoku, Mylène Farmer. Mes sœurs ne m'ont pas compris, génération désenchantée. Elles me voient en homme déconstruit, je suis encore un homme en chantier. Et ouais ma sœur, t'es une resta. Ne cherche pas à devenir l'égal d'un homme, tu vaux mieux que ça. Mes copines disent que c'est le monde qui est misogyne. Et peut-être que ça suffira pas de faire un feat avec Youssoupha.
Ah, à la vie qu'on mène. Au grand rêve que l'on traîne. Et qui nous perdent gentiment, gentiment. Ah, à la vie qu'on mène. Et puis même si c'est la merde, il faut que je m'aime. Sinon qui le fera plus que moi. Moi, qui le fera plus que moi. Plus que moi. Qui le fera plus que moi.
Quand on parle de logement, on pense d'abord à l'intime, à l'abri, à la sécurité. Mais pour beaucoup de personnes, habiter quelque part, c'est surtout retrouver une place dans la société. Comment éviter l'isolement? Comment recréer du lien quand la santé mentale fragilise les parcours de vie? L'habitat inclusif, c'est une des réponses possibles. Avec moi pour en parler aujourd'hui, Romain Lemaire, responsable au sein du Geste Mayenne. Romain, en quelques mots, est-ce que vous pouvez présenter l'association Le Geste?
Alors, Le Geste est une association médico-sociale. On gère des services médico-sociaux, du coup, qui ont une mission principale d'accompagner des personnes en situation de handicap sur le territoire de la Mayenne.
L'habitat inclusif, aujourd'hui, est un terme beaucoup utilisé. Qu'est-ce qu'il veut dire pour vous dans ce contexte et peut-être même, qu'est-ce qu'il ne veut pas dire ?
Alors, moi, j'apparente souvent le terme inclusif à la notion du vivre ensemble. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit nous permettre effectivement de, malgré les différences des uns des autres, malgré des choses qui peuvent a priori nous opposer, l'idée, c'est comment on fait ensemble de rassembler des profils de personnes très diverses, très variées, et de faire en sorte qu'on arrive à vivre ensemble sur un même territoire ou à travers une même activité.
Avant qu'il existe en Mayenne, que vivaient les personnes que vous accueillir, qu'est-ce que l'habitat inclusif vient changer dans leur parcours ?
Donc au GES, ça fait déjà quelques temps qu'on accompagne en fait des personnes dans l'accès au logement, des personnes qui avant pouvaient vivre en hébergement collectif, en foyer. Donc on a accompagné des sorties de foyer vers des logements, vers du logement autonome. Donc on fait ça depuis déjà de quelques années. Mais on s'est rendu compte que au-delà de la capacité des personnes à pouvoir vivre de manière autonome dans leur logement, ce fait-là en fait les amenait parfois à s'isoler aussi. Et à être dans de la solitude de manière assez récurrente et quotidienne. Entre les deux, il n'y avait pas grand-chose. C'est-à-dire que soit vous étiez dans un hébergement collectif avec des règles de vie collectives dépendantes d'un ensemble de choses et la notion du chez-soi, elle était finalement peu présente. Là où on est arrivé à un chez-soi vraiment marqué, en pleine autonomie, mais du coup quelque chose qu'on perdait, qui était intéressant dans le collectif, c'était l'interaction sociale, c'était le lien, l'animation. Et du coup, c'est comme ça que nous, on est arrivé à réfléchir, à se dire il nous faudrait une réponse intermédiaire finalement entre ce collectif, cette vie en collectivité, et puis ce logement pleinement autonome. Et l'habitat inclusif, il vient se poser juste entre les deux, où il permet à chacun d'avoir son logement de manière autonome et de bénéficier d'un espace collectif d'animation et d'interaction.
Alors comment un dispositif comme ça se met en place ? Comment vous l'avez lancé ?
Alors nous, on l'a lancé il y a 3 ans maintenant sur un premier site sur Laval, à l'appui d'un appel à projet qui avait été proposé par le conseil départemental. Et on s'est appuyé sur notre partenaire qui est Medouane Habitat, qui est un bailleur social qui nous met à disposition des logements pour pouvoir du coup faire vivre ce projet-là. Donc ce sont des logements sociaux que GEST loue à Medouane et ensuite GEST sous-loue ces logements là aux personnes. On loue aussi un espace du coup collectif en proximité de ces logements individuels pour permettre justement de faire vivre le projet d'habitat inclusif dans un espace commun où on va pouvoir manger, partager un café, faire des animations, participer à des activités. L'espace collectif, il est en proximité des logements individuels pour que on puisse y venir de manière très facile en présence d'un professionnel ou de manière complètement autonome aussi. C'est vraiment, on va dire, une annexe ou une extension du chez-soi, mais de manière un peu collective.
Aujourd'hui, on est ensemble pour parler de santé mentale. Avoir un logement à soi, ça semble être une base. Mais est-ce que ça peut aussi être un soin dans un parcours comme ceux que vous accompagnez, par exemple ?
Oui, là, je prendrais en exemple une personne qu'on accompagne, qui est sur l'habitat inclusif, sur notre deuxième site sur Laval, qu'on a ouvert il y a un an, qui, avant, quand on l'a rencontrée pour se projeter sur l'habitat inclusif, nous avait expliqué qu'elle était dans un parcours récurrent d'hospitalisation. Un long parcours psychiatrique fait d'hospitalisation, de retour au domicile, d'hospitalisation, de retour au domicile, et sa vie était ponctuée comme ça et du coup avec une vraie difficulté de s'inscrire du coup dans d'autres projets aussi en lien avec cette variabilité-là. Depuis qu'elle est arrivée sur le projet d'habitat inclusif là sur le quartier de Ferrier, et bien en fait elle n'a plus été du tout hospitalisée. Donc elle en est très fière. Elle aime bien en témoigner d'ailleurs quand on la croise, en disant que ça lui a vraiment apporté cette stabilité, cette sécurité, parce qu'elle est chez elle, elle y met ses règles, mais elle peut aussi très vite faire du lien quand ça va pas, trouver du soutien, soit à travers les autres habitants du collectif, soit à travers les professionnels qui interviennent. Et du coup, cette notion de soin, on ne la travaille pas dans les murs de l'hôpital, mais on va la travailler autour de chez elle et en proximité d'elle. Et du coup, ça évite effectivement des périodes d'hospitalisation et qui semblent tenir, en tout cas aujourd'hui, depuis plus d'un an maintenant. Ouais.
Ce qu'on peut dire de ces lieux, c'est qu'ils permettent de construire un bon équilibre entre l'individuel et le collectif. Chacun crée cet équilibre en fonction de ses besoins et de ses envies.
Oui, c'est ça. Oui, alors chacun fait effectivement à sa sauce. L'idée, c'est quand on vient sur l'habitat inclusif, c'est pas qu'on partage tout non plus, tout le temps, tous ensemble. On est attentif à ce que ce projet-là, ce soit déjà le leur. Donc on a des espaces qui sont prévus pour qu'ils puissent partager, échanger sur leurs souhaits, leurs envies, sur ce qu'ils veulent accrocher de l'actualité, de l'événementiel culturel, par exemple. Donc ils se réunissent de manière à peu près mensuelle pour échanger tout ça, et puis de pouvoir dire, tiens, moi j'aurais envie d'aller au cinéma demain, j'ai vu qu'il y avait un film à l'affiche, ça m'intéresse, est-ce que quelqu'un veut venir avec moi? Et voilà, et en fait la dynamique elle va se créer comme ça, et c'est à partir de leurs envies, de leurs attentes, de leurs souhaits qu'on va construire nous, qu'on va les aider à construire un programme d'animation sur lequel ils vont pouvoir en fait s'inscrire, ou en tout cas venir de manière très libre sur toute la semaine, voilà. Et on est aussi attentif à ce que cette animation là elle ne soit pas inscrite que au sein de l'habitat inclusif, mais qu'elle puisse surtout se faire sur l'extérieur aussi. L'idée, c'est pas de recréer des espaces où on vient recloisonner des gens, mais c'est plutôt de se dire comment, à partir de ce collectif-là, on va pouvoir investir ce qui existe en fait sur notre territoire et en proximité de là où on est.
Quand on parle habitat inclusif, on parle forcément aussi des habitants, du voisinage. Qu'est-ce que ça change pour la société autour, ou même pour le territoire, ce genre de dispositif ?
C'est un espace qui vient faire médiation, en réalité, entre des personnes qui, avant, ne sont pas toujours très visibles, sont dans des foyers, sont dans des institutions. Là, effectivement, elles sont, c'est votre voisin, c'est les miens, c'est vous, c'est moi, finalement, dans ces espaces-là. Et nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que tout ce monde-là puisse finalement vivre ensemble en tenant compte un peu des particularités des uns et des autres, en essayant de mieux comprendre un peu qui est finalement mon voisin. Et on va pouvoir comme ça, nous, interagir pour médiatiser un peu ces espaces relationnels qui peuvent parfois être conflictuels quand ils ne sont pas médiatisés. Et puis on se dit que finalement, c'est une bonne manière de se projeter sur qu'est-ce que peut être le vivre ensemble au-delà de l'habitat inclusif sur nos propres territoires.
L'habitat inclusif ne résout pas tout. Qu'est-ce qui reste fragile, même quand on a trouvé sa place dans ce type de logement, parmi les profils que vous accompagnez ?
Non, ça résout pas tout, mais en tout cas c'est une bonne accroche déjà, c'est un bon moyen de sécuriser les personnes, et une fois qu'on a répondu à ce besoin-là, on va pouvoir aussi se projeter sur d'autres besoins. Ça retire jamais les difficultés dans lesquelles ils sont, et ça nécessite toujours parfois de l'accompagnement complémentaire. L'habitat inclusif va pas suffire à lui-même. Les services qu'on gère par ailleurs au niveau du geste, le SAMSA, Jean, les SAVS vont pouvoir continuer d'intervenir auprès de ces personnes. Et puis la pointe de vigilance aussi, c'est que quand on recrée des espaces, c'est que ces espaces-là se recloisonnent pas sur eux-mêmes. Et vraiment, cette question de l'ouverture, cette question de l'inclusion, vous le disiez, c'est aussi ça, c'est aussi comment finalement on remet pas des murs là où on a tenté de les enlever. Et du coup, c'est de s'assurer qu'on remonte pas les murs autour de l'habitat inclusif, et que ça reste à chaque fois très très ouvert sur notre environnement.
Quand vous entendez, Romain, le thème des semaines d'information sur la santé mentale cette année, réparer le lien social, le restaurer, est-ce que vous diriez que l'habitat inclusif répare, restaure ou invente justement d'autres liens, ou peut-être les trois ?
Eh bien, sûrement les trois, ça les restaure très très probablement pour des personnes aussi qui ont eu des parcours parfois compliqué, sous le regard de l'autre, avec des moqueries. Ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de valoriser à travers ça, c'est de se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire de ce parcours qui a été difficile, et comment il devient utile, peut-être à un moment ou à un autre, dans du partage d'expérience, dans le partage du vécu. Moi, il s'est passé ça, et qu'est-ce que j'en ai retiré, et moi, dans un parcours un peu similaire, comment je peux m'appuyer de ça pour me dire, peut-être que moi aussi, je suis en capacité de faire quelque chose. Donc ça, c'est important. C'est un parcours qui doit nous permettre, encore une fois, d'apprendre de l'autre. On n'est jamais construit que par nos interactions avec les autres. Et plus on va multiplier ces interactions, et plus on est en capacité aussi de faire face à un ensemble de situations, parfois, qu'on peut avoir du mal à gérer. Et là, vraiment, c'est l'appui du collectif. Je crois qu'on dit tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.
Si demain on supprimait ce type de dispositif, qu'est-ce qu'on perdrait à votre avis collectivement ?
notre capacité à faire du lien ensemble, notre capacité à vivre ensemble. On est dans un moment où on oppose un peu les uns les autres, on essaye de créer du corporatisme, on essaye voilà, d'opposer trop de choses actuellement. Et si on retire ça, ben on vient rajouter finalement de la difficulté. La difficulté là où l'idée, c'est plutôt où est-ce qu'on va trouver la complémentarité de ces espaces-là. On n'est pas tous obligés d'être d'accord avec tout le monde. Et pour autant, il y a peut-être quand même des choses sur lesquelles on peut se retrouver. Et c'est plutôt ça, nous, qu'on essaye de faire avec l'habitat inclusif, c'est de venir trouver ces espaces de complémentarité dans des espaces qui sont un peu cloisonnés, où on regarde l'autre avec méfiance. Et on va faire en sorte que nous, on regarde l'autre plutôt avec envie plutôt qu'avec méfiance.
Merci beaucoup, Romain, d'avoir été avec nous.
Merci.
Besoin de passeport, vous êtes déjà dans l'agité du local.
Et puis, il y a des tas de manières de fermer la porte, de se dire au revoir, mais je propose un dernier rayon de lumière, celle de notre chroniqueur Donatien.
Charles Bronson, Marcello Mastroianni, Burt Lancaster, mais aussi Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, en voilà un quintet gagnant, un quintet de belles gueules aujourd'hui au paradis. Des comédiens qui nous ont emportés dans l'Ouest américain à l'époque où progressait le chemin de fer, ou encore en Sicile du côté de Palerme et qui nous ont fait voyager dans le temps au siècle de la royauté quand Cartouche jouait les Robin des Bois. Ce quintet d'hommes, disons-le, au physique plutôt viril et très séduisant, a réveillé Saint-Pierre de bonne heure ce 23 septembre 2025. Dès le chant du coq, ils sont sortis de leur sommeil et le rêve de la nuit est devenu réalité. Venait faire son apparition au royaume céleste une des plus belles stars qu'ils avaient dans leur carrière cinématographique tenue dans leurs bras. On allait valser ce soir au-dessus des nuages et faire tourner la robe de Claudia Cardinal. Tous les anges assisteraient au bal. Le sourire, le regard, le visage tout entier de la belle italienne allait donner l'envie aux mortels d'être invités là-haut pour voir tourner dans un même mouvement et la robe et la brune chevelure libre et fière de celle qui interpréta Vénus dans les bras de Cartouche, Angelica dans les bras du séduisant Tancrède, le noble neveu du prince Salina. Donatien, comme tant d'autres, restait hypnotisé par le charme de cette grande actrice et il parcourt avec nostalgie les articles consacrés à Claudia Cardinal. Sur les photos, on la voit souriante, romantique, énigmatique, mais c'est dans un film d'Henri Verneuil qu'elle incarne, aux yeux de Donatien, l'amour avec un grand A. L'amour d'une mère pour son fils, épouse de Zakarian, interprétée par Omar Sharif, elle est la mère d'Azad, jouée par Richard Berry. L'actrice interprète dans le même film une jeune femme séduisante et une grand-mère au crépuscule de son existence. Les lecteurs d'Albert Cohen et de Marcel Pagnol savent qu'une maman n'a pas d'autre âge que celui de l'amour infini et insondable qui fait battre son cœur. Un cœur que l'on croit immortel, mais un cœur usé d'avoir trop aimé. Et lorsqu'à la fin du film, Myrick, appuyé sur le bras de son fils, marche dans cette longue allée de roses flamboyantes, Claudia Cardinal n'a jamais été aussi belle. Lorsque disparaît la silhouette de celle qui, en arrivant en France, habitait au 588 rue du Paradis, tous les fils de la terre, quel que soit leur âge, ne peuvent ressentir autre chose qu'un frisson.
L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Joanne et Romain d'avoir été à notre micro. Merci bien sûr aussi à Donatien. C'est votre émission quotidienne qui touche à sa fin. Sa musique originale est signée Lenaïk Folzour. Avant de se quitter, un mot sur les programmes qui arrivent. Ce soir à 21h, vous retrouverez Frères de Chaussures, l'émission dédiée au rap français proposée par Fatshu. Et juste après moi, eh bien à 13h, ce sera Carbone Zéro. On part dans le Gers à la rencontre de Marc et Lottie, un couple qui a choisi de vivre simplement avec leurs enfants dans une maison sans eau, sans électricité, sans téléphone. Là-haut, sur la colline, dans une vieille maison de pierre, un cadre paisible, une vie sobre, belle dans ce qu'elle a de vrai. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. La question que l'on se posera nous concerne tous. Et oui, en plein désert médical, que devient notre santé mentale quand on n'a plus de médecin? D'ici là, trouvons ce mardi un petit goût de vendredi, juste pour le plaisir d'y croire un peu. Oui, pourquoi pas? Et s'il vous plaît, faites-le bien.
Alors, Mimi, on leur dit au revoir?
Oh non, juste à demain.